Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Vous écoutez la deuxième émission consacrée par Canal Académie à l'ouvrage de Luc Ferry et Jean-Didier Vincent, paru en 2010 chez Odile Jacob et intitulé « Qu'est-ce que l'homme ?». Après le philosophe, c'est au tour du scientifique de répondre à cette question et de nous initier à sa discipline, la biologie. Pour le biologiste, peu importe que l'homme soit apparu en Afrique ou ailleurs, ni depuis combien de temps. Ce qui importe, Jean-Didier Vincent le formule ainsi, en matière d'homme, l'à-peu-près ne tient pas. Être humain, c'est tout un. En d'autres termes, parmi les espèces vivantes, il y a l'homme et le non-homme. C'est l'un ou c'est l'autre, il n'y a pas de milieu. Or, la monstrueuse vérité, l'inavouable, nous dit-il, c'est que nous descendons du singe, une lente évolution qui avait duré 3 millions d'années, jusqu'à l'apparition d'un petit groupe d'individus fondateurs de l'espèce humaine, l'Homo sapiens. Les espèces intermédiaires, elles ont disparu. Elles n'ont donc pas résisté à la sélection naturelle. Dans la première partie de l'ouvrage, s'interrogeant sur la frontière entre l'humanité et l'animalité, le philosophe estimait que la philosophie doit aborder cette question avec humilité face aux remarques de la science. Le moment est donc venu de nous mettre à l'écoute d'un homme de science. Première surprise, pour le biologiste, l'homme est un animal. Mais le problème d'une distinction demeure, car il y a, sans confusion possible, l'homme et le non-homme. Certes, dans les données anatomiques et physiologiques de l'homme, rien de décisif qui le distingue de l'animal. Et cependant, lorsqu'en humaniste, Jean-Didier Vincent s'interroge sur les origines de l'homme, il se refuse à confondre le singe talentueux et l'homme d'esprit. L'homme est réputé être un animal doué de raison, un animal qui parle. Il n'empêche que, paralysé, aphasique et déraisonnable, l'homme reste un homme. Jean-Didier Vincent évoque Heidegger pour reconnaître à l'homme une différence ontologique avec les autres espèces vivantes. Tel est bien l'esprit de cet ouvrage. Montrer que la philosophie et la science gagnent aujourd'hui à ne plus s'ignorer, sans pour autant mélanger leurs tuniques, souligne Jean-Didier Vincent, qui emprunte volontiers celle du lyrisme. Citons-le. Comme l'aube rend la nuit incertaine, l'apparition de l'humanité au grand jour de l'histoire renvoie dans les ténèbres l'animalité qui l'a précédée. Un régal de lecture autant qu'une richesse d'enseignement, ce livre. Mais ces êtres qui ont laissé leurs traces dans la boue volcanique et que le paléontologue peine à suivre. D'où venaient-ils ? Où allaient-ils ? Demande Jean-Didier Vincent. Avaient-ils entre eux des conversations ? Se posaient-ils la question de l'être ? Après tout, leur pensée n'est peut-être pas plus inaccessible que celle de Heidegger. Qui étaient-ils ? Des bipèdes. C'est tout ce que la science nous autorise de répondre, conclut-il. En dépit de quoi, le biologiste va tout de même partir à la recherche de son Graal. Quel est donc le propre de l'homme ? D'abord, comprendre comment l'évolution a fabriqué l'homme. Elle y a mis le temps, mais à son horloge, le moindre instant est l'affaire de quelques milliers d'années. Jean-Didier Vincent compare l'arborescence des espèces à un buisson ardent, dit-il, comme par besoin de sacraliser par une référence biblique. Dans ce buisson, des boutures apparaissent au hasard des mutations, et la sélection naturelle se charge de tailler à la façon d'un jardinier. À ceci près que rien ne guide son action. Le cou de la girafe ne s'allonge pas pour atteindre les hautes feuilles, mais cette aptitude favorisera la survie des girafes à long cou. Chez les grands singes, la sélection sera liée aux performances du cerveau. Ainsi a fonctionné la fabrique de l'homme. Jean-Didier Vincent en fait le titre d'un long chapitre. Si on idéalise les faits, ce que la science interdit mais que la poésie recommande, nous dit-il, le passage du quadrupède au bipède exprime une série de libérations successives. Et cela en concomitance avec l'encéphalisation. Le point de rupture se précise. Il est sûrement lié à l'évolution du cerveau. Si on en juge par son volume, il se situerait quelque part entre les australopithèques et l'homme debout, Homo erectus. Mais le volume du cerveau n'est pas un indicateur décisif de son évolution. Alors, à quelle performance peut-on rattacher ce critère d'humanité que nous recherchons ? On a longtemps voulu que ce soit le recours à l'outil. Mais ce recours a été graduel. Puis, on a pensé à la transmission culturelle. Mais il existe chez les chimpanzés de nombreux foyers culturels différents les uns des autres. Un signe plus probant serait-il une certaine attitude devant la mort, le recours à la sépulture. On évoquera également l'usage du feu. Autant de critères qui auront du mal à satisfaire l'exigence d'une vision humaniste. Jean-Didier Vincent va donc porter son regard sur le cerveau et plus précisément sur la pensée. On sait aujourd'hui que l'excellence du cerveau a élu domicile dans sa partie périphérique, le cortex. On a identifié la topologie fonctionnelle des zones corticales. On a repéré ces aires neuronales plus ou moins spécialisées, assemblées entre elles par un tissu d'interconnexion plus ou moins stable et en perpétuel chantier, les synapses. On en découvre la synergie dans les phénomènes de perception, de mémorisation, de représentation du monde extérieur. Ce que l'animal sait du monde est inscrit dans son cerveau sous forme de représentation, nous dit Jean-Didier Vincent. C'est par leur richesse extraordinaire que l'homme se distingue de l'animal. Si l'expansion du cerveau a joué un rôle avéré, et si sa taille ne fait pas tout, l'intelligence est à chercher dans la configuration du cortex. Abondance, complexité, plasticité du maillage neuronal. L'assemblée des neurones a la double charge de produire des représentations et de régler des actions. D'où le néologisme proposé par Jean-Didier Vincent, les représentations. Elles atteignent chez l'homme un niveau tel que leur acquisition culturelle, leur épigénèse, prolonge l'enfance de l'homme bien au-delà de celle du singe. Capacité mémorielle, gestion du temps et conscience de soi participeraient d'une même aptitude. Un type de représentation semble également être le propre de l'homme. Jean-Didier Vincent désigne ainsi le langage. L'aptitude au langage est pour lui une capacité innée, d'où cet intertitre. L'homme, la bête qui parle. Il parle comme l'oiseau peut voler. Il y a une base génétique dans cette disposition. Un saut évolutif venu bouleverser le règne animal, note le biologiste qui plaide dans ce sens. Qui voit dans les mots des outils à manipuler les autres, on peut même en localiser la machinerie dans le cortex. Une disposition qui existait sans doute chez le singe, mais dévolue à d'autres manipulations. Car il existe de ces préadaptations dont l'évolution se charge de tirer profit. Ainsi a-t-il pu en être du langage. Ce cas particulier du langage a donné lieu à bien des expériences. Il a suscité bien des polémiques avec les linguistes. Il existe une discontinuité entre la communication du singe et celle de l'homme qui, pour eux, s'explique difficilement par un processus gradualiste. D'où l'hypothèse d'un palier intermédiaire, d'une ébauche de langage correspondant à un proto-langage. La fonction globale du langage serait de produire du social, constate Jean-Didier Vincent. Le jeune enfant en acquiert les éléments avant même de les comprendre. Si maintenant on se tourne vers les différences génétiques, on en trouve bien sûr entre l'homme et le singe. Mais leurs interprétations sont souvent trompeuses. Une mutation sur un seul gène pourra avoir des conséquences considérables, nous dit le biologiste, alors que d'autres mutations sur d'autres gènes, ou surtout sur l'ADN non codant, laisseront l'organisme indifférent. Suite et fin d'un avènement, celui de l'homme unique. Ce grand bipède est apparu il y a de cela 1 à 2 millions d'années. Retour à la métaphore du buisson, celui des hominidés que la sélection naturelle allait décimer pour ne conserver que l'Homo erectus. Il a évolué lentement en 2 espèces et, après disparition des Néandertaliens, une seule espèce devait survivre, l'Homo sapiens, l'homme unique, celui que nous sommes. Cet homme unique, cet homme abouti, Jean-Didier Vincent en fait l'interprète passionné du monde. Il s'empresse de reconnaître en lui l'artiste, l'amateur d'art doué de sensibilité. Et il souligne le chassé-croisé entre la sensibilité et l'intelligibilité qu'il désigne comme inséparables. Il réserve à l'homme son concept de représentation, sans quoi l'homme ne serait pas l'homme et l'art ne serait pas. Tout comme Luc Ferry, Jean-Didier Vincent parle d'un arrachement à l'animalité. Il rejoint encore le philosophe en citant Goethe. « Ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas vu. » Même souci kantien de soumettre la connaissance à la nécessité d'une intuition sensible, la perception. Il insiste sur ce niveau de partenariat entre l'œil et la main. Il le désigne comme la collusion sensorimotrice dont l'art est le témoin. Un discours qui échappe à la froideur habituelle du discours scientifique. Jean-Didier Vincent affectionne les aphorismes provocateurs, les formules paradoxales. Il vous déclare « Le cerveau est un royaume dont le monarque est en même temps le sujet » ou bien « L'homme est un vivant qui promène avec lui son cadavre ». Autant d'élégance verbale, autant d'invitations à prendre conscience. Après avoir entrevu le propre de l'homme dans le langage et aussi dans l'art, sans doute son contemporain neuronal, pense-t-il, Jean-Didier Vincent veut le découvrir dans la passion. Certes, la passion accompagne l'émotion, mais l'émotion s'observe chez tous les vertébrés. Abondamment explorée, elle conserve un statut identique chez l'animal et chez l'homme, alors que la passion n'appartient qu'à l'homme. Distinction nécessaire pour éviter, nous dit Jean-Didier Vincent, une anthropologie trop animalisante. La passion a ceci en plus qu'elle s'inscrit dans une conscience de soi confrontée à celle des autres. La passion se dit avec des mots, tels ceux de la haine et ceux de l'amour. Pour autant, l'homme étant aussi un animal, Jean-Didier Vincent ne peut se dispenser de biologiser la passion et de l'inscrire dans un large détour par la biologie des émotions. Les émotions jouent un rôle de communication ou d'adaptation des espèces. Rien d'étonnant ce que Darwin s'y soit intéressé. N'en déplaise à ceux qui veulent les charger de culturel, Jean-Didier Vincent les tient pour largement innés. Les individus d'une même espèce, voire au-delà, savent décoder entre eux les manifestations émotives. Jean-Didier Vincent nous fait alors découvrir l'univers des neurohormones et le rôle qu'elles jouent dans nos émotions, notamment dans la plus fondamentale d'entre elles, le désir. Le biologiste s'interroge. Quel désir pousse l'amante à dévorer l'amant ? L'histoire du désir, Jean-Didier Vincent est bien placé pour nous en parler. Son groupe de recherche a étudié de près les systèmes désirants chez les vertébrés. Pourquoi les vertébrés ? Parce que ces animaux mobiles et rigides, en interaction accrue avec le monde extérieur, ont vu la fonction du désir s'organiser en système de plus en plus élaboré. Et pourquoi cet intérêt accordé au désir ? Parce que sur les émotions du désir, l'homme va construire les passions qui l'animent et lui prête sa dimension d'homme. L'auteur de « Biologie des passions » en fait l'une de ses idées-forces. Siège de tout ça, le cerveau. Tous les processus que décrit la psychologie, la neurobiologie en a fourni des bases anatomiques et pharmacologiques, note Jean-Didier Vincent. Il parle de cerveau flou pour en désigner le tissage incertain, mouvant, celui des connexions neuronales. Il nous entraîne dans ce labyrinthe pour nous expliquer ce qu'il nomme les processus désirants. Ce que nous ressentons et sur quoi la psychologie met des mots, la neurobiologie le visualise par imagerie médicale. Elle en traque les processus électriques et chimiques. Elle met en évidence les productions neuronales, ces hormones messagères qui règlent nos humeurs, notre spontanéité, nos désirs. Alors, le cerveau serait-il aussi une glande ? Encore une des idées forces de Jean-Didier Vincent. Qu'une encéphalite détruise les neurones qui sécrètent la dopamine et toute réactivité disparaît. La faillite du désir entraîne alors celle du plaisir et de la souffrance. On a pu faire du plaisir la monnaie commune de nos comportements. Il correspond normalement à la satisfaction d'un besoin. Mais un autre phénomène est venu se greffer sur ce modèle économique, l'auto-stimulation. La satisfaction du besoin n'est même plus nécessaire pour donner du plaisir. Chef d'orchestre du système, l'hypothalamus se charge d'en exciter gratuitement les circuits générateurs. Le comportement n'a plus alors d'autre mobile que de procurer du plaisir et de satisfaire un désir devenu insatiable. La théorie des processus opposants éclaire et généralise ce mécanisme d'autostimulation. Les choses peuvent se résumer ainsi. Le plaisir s'oppose à la souffrance et, dans un phénomène de rebond, l'arrêt d'une souffrance provoque un plaisir par une forme d'alternance. On pense au pont Mirabeau d'Apollinaire. La joie venait toujours après la peine. Sur un autre plan, c'est le marathonien qui se soumet au supplice de la course et qui ensuite baigne dans le bonheur de ses endomorphines. Inversement, après le plaisir de la drogue, c'est l'addiction et la souffrance du manque, du sevrage. Ajoutez-y ce phénomène surprenant. Lorsque l'accoutumance rend moins accessible au plaisir ou plus tolérant à la souffrance, l'effet rebond persiste. Des expériences le montrent, l'alternance demeure. Tout cela est sous-tendu par des processus de neurotransmission ou d'inhibition, par la mise en jeu d'hormones maintenant identifiées. Elles circulent sur des chemins de récompense ou de punition et portent de jolis noms, dopamine, sérotonine. Avoir compris ces phénomènes, c'est pouvoir agir sur eux. Pouvoir, par exemple, traiter une dépression par des substances susceptibles d'inhiber certains circuits en les encombrant. Encore faudra-t-il distinguer entre plusieurs formes de dépression. Il y a, nous dit Jean-Didier Vincent, une génétique de l'addiction comme il y a une génétique de l'ennui. Sans doute, de tels mécanismes sont-ils aussi présents chez l'animal. Mais encore une fois, plaisir ou souffrance, les humains se différencient par cette capacité qu'ils ont de les partager grâce au langage. Dans le chapitre « Un vivant parmi les morts », Jean-Didier Vincent évoque l'origine de la vie et les problèmes posés par son évolution. Lors de l'entretien final, il jugera cette partie de son cours à la fois trop compliquée et incomplète. C'est que la matière est vaste et sa complexité difficilement contournable. Proposée contre la croyance en un Dieu créateur, l'hypothèse d'une génération spontanée ne tenait plus depuis sa réfutation par Pasteur. Mais si la vie ne peut surgir de rien sinon de la vie, comment penser la fixité des espèces ? D'où viendrait chacune d'elles ? L'évidence observée de leur parenté va donc accréditer la théorie de l'évolution, Situer l'homme dans l'histoire de la vie et, sans cautionner le vieux mythe de la Genèse, faire s'interroger sur l'origine de cette vie. Le problème de la création n'était que déplacé. Devant ce mystère non résolu, la science ne va guère aller plus loin que l'affirmation d'un ancêtre unique, une cellule initiale dont toute cellule dériverait, avec de rares mais possibles erreurs de recopie. D'où une évolution qui se montre soumise à deux exigences, la stabilité de la forme, qui assure la conservation des espèces, la variabilité sans laquelle il n'y aurait pas d'adaptation et donc pas d'évolution, l'adaptation exprimant l'accord entre l'organisme et son milieu. La reproduction sexuée apparaît chez les organismes multicellulaires. Cette fonction est alors confiée à des cellules spécialisées, les gamètes. Par mélange de génomes, le panachage des individus accroît encore leur variation. La profusion des espèces rend nécessaire à leur survie une aptitude à connaître et à classer les catégories prédateurs, proies, partenaires sexuels. À des degrés divers, toutes les espèces animales possèdent de telles capacités cognitives. L'excellence de l'homme tient à son talent cognitif. Et il dispose en plus d'une faculté de nommer. Jean-Didier Vincent consacre ses dernières réflexions à la grande préoccupation des humains, le sexe et la mort. Un duo qui envahit les cultures, fait recette chez les poètes, mais semble laisser la science assez perplexe. Monde incertain que celui de la sexualité, barrière fragile, mouvante entre les sexes, Jean-Didier Vincent évoque le vaste arsenal des modes de reproduction. Comment, dans cette richesse d'invention, la reproduction sexuée a-t-elle pu à ce point s'imposer ? Pourquoi deux êtres éprouvent-ils l'impérieuse nécessité de s'accoupler, demande le biologiste. Et de conclure, on peut retourner le problème dans tous les sens, la question reste ouverte. Il reconnaît que les avantages adaptatifs du sexe ne se manifestent qu'à long terme. La reproduction sexuée, en introduisant massivement du neuf dans un vieux génome, permettrait sa réparation. En somme, elle lui offrirait de redorer son blason. Un discours qui se reconnaît lui-même des relents de finalisme. Le sexe, peut-on encore lire, introduit un niveau de diversité maximale, un moyen d'échapper à l'ennui, antichambre de la mort qui naît de l'uniformité. En d'autres termes, avec le sexe, on s'ennuie moins. Quant à la mort, elle paraît tout aussi mystérieuse. Au moins aurait-elle une fonction, celle de faire de la place. L'idée a été soulevée. Confrontées aux découvertes scientifiques, les intuitions philosophiques n'allaient-elles pas s'en trouver malmenées ? Le libre cours des deux cheminements, philosophique et scientifique, serait sans doute promis aux divergences. Au cours d'un échange final, Luc Ferry s'est presque étonné qu'elle soit aussi mineure. Le philosophe, par exemple, se montre plus restrictif que le biologiste quant à l'utilisation du terme de « culturel » pour qualifier les différences de comportement au sein d'une même espèce animale. Pour Luc Ferry, en effet, tout ce qui n'est pas inné, tout ce qui est reçu du milieu, ne peut être culturel sans une libre acceptation, un consentement critique. Ce qui n'existe pas dans la transmission animale. Le biologiste, de son côté, met en garde contre l'usage immodéré d'exemples animaliers pour cerner la spécificité de l'homme. Il dénonce également la recherche abusive d'un gène responsable pour chaque comportement humain. De telles remarques ne relèvent guère d'une attitude réductrice. L'humanisme en conviendra. Titre de l'ouvrage « Qu'est-ce que l'homme ?» par Luc Ferry et Jean-Didier Vincent, paru en 2010 aux éditions Odile Jacob. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain agenda littéraire sur l'antenne de Canal Académie.